Ceci dit, en voilà une autre belle histoire, Mme Campagna, que vous allez nous conter.
Oui, bien, cette semaine, pour les gens qui l'ignorent, d'abord, on va préciser un petit peu le contexte, c'est la semaine de la canne blanche qui est une semaine canadienne, en fait. Et je me demandais, jusqu'à tout récemment, j'avais de la difficulté à trouver les dates, et là, on m'a expliqué comment ça fonctionne.
Oui.
C'est que c'est la première semaine complète de février.
Ah, OK. C'est un peu comme Pâques, ça change d'une année à l'autre.
Voilà. Donc, semaine commençant le dimanche. Mm-hmm. Nous sommes donc en pleine semaine de la canne blanche depuis hier.
D'accord.
Et bon, la canne blanche, qui est vraiment un objet qu'on identifie aujourd'hui de, presque automatiquement, aux personnes ayant un handicap visuel, comme bien des inventions, ses origines sont débattues.
Aha.
De la poutine au téléphone, on a toujours...
qui a inventé la première poutine? Ça, évidemment, c'est intéressant, mais c'est moins fondamental que la canne blanche,
exactement.
Parce qu'elle est universellement reconnue comme étant un symbole d'autonomie et d'indication, de déclaration de notre situation d'handicap.
Oui, mais dans l'histoire des inventions, il y a souvent des histoires qui sont un peu simultanées, qui souvent se ressemblent. Puis évidemment, il y a deux hypothèses qui pourraient expliquer ça. Des fois, il y a des choses qui sont dans l'air du temps.
Oui.
Et on finit par avoir plusieurs personnes qui inventent la même chose à peu près au même moment. Dans le cas de la canne blanche, cette ère du temps-là, ben c'est tout ce qui fait suite à la Première Guerre mondiale et à l'utilisation des gaz qui avait fait que beaucoup de soldats se sont retrouvés avec des problèmes de vision. Et puis, d'autres fois, ben c'est peut-être qu'en fait, il y en a un qui l'a inventé et ça s'est répandu, mais des fois, la personne qui invente n'est pas la même personne qui est la meilleure pour...
pour en faire la promotion.
D'invention. Alors, dans le cas de la canne blanche, le premier nom qu'on voit passer est celui d'un Britannique qui s'appelle James Biggs, qui habitait à Bristol, et il l'aurait inventé vers 1921.
D'accord.
Alors, il a voulu quelque chose pour être plus visible des automobilistes dans le trafic. Mais le nom pour lequel on trouve le plus d'informations et l'histoire la plus étoffée, ça se passe en France, un tout un petit peu plus tard, mais à peine. Et c'est Madame Guilly d'Herbemont.
Oh, c'est joli, Guilly d'Herbemont, là. Ça vous place dans la société.
Ben, c'était une comtesse. C'est un petit nom de noblesse. Alors, c'est une Parisienne fortunée qui habitait près d'une école que fréquentaient des personnes aveugles. Et il y avait une intersection importante à cet endroit-là. Et vraiment, elle était morte de peur de les regarder essayer de traverser la rue.
Parce que là, il n'y a pas de canne blanche. Alors, la personne aveugle qui essaie de traverser, l'automobiliste, n'a aucune idée de la vulnérabilité du piéton, là.
Oui, et il n'y avait pas de feu de circulation tout court. Hein. On ne parle même pas qu'il n'y avait pas de feu sonore, là. On dit qu'il n'y avait pas de feu de circulation.
Okay.
Alors, une intersection importante où les voitures n'arrêtent pas ou arrêtent à peine, font un stop, c'était vraiment un enjeu. Et son inspiration serait venue parce que certaines intersections, il y avait des policiers qui faisaient la circulation.
Oui, oui.
Et pour se faire voir, ils utilisaient des bâtons blancs.
Ah, d'accord.
Donc, elle s'est dit, si les automobilistes sont habitués à réagir...
Comme des chiens de Pavlov, là, ils voient un bâton blanc qui s'élève, ils arrêtent. C'est bon, ça. Oui.
C'est ça. Donc, c'est pour cette raison-là qu'elle aurait eu cette idée de fournir des bâtons blancs aux personnes qui avaient un handicap visuel. Alors, à ce moment-là, on ne parle pas encore de l'utiliser pour se guider.
Ah, c'est pas une canne qui est pointée vers le bas. C'est un peu comme le bâton du gendarme exact qu'on lève comme un écriteau, là. Un peu comme le brigadier scolaire avec sa petite palette de ping-pong rouge.
Ben, c'est un peu ça, dans le sens où, dans les diverses fonctions que remplissent aujourd'hui la canne blanche, la première a été celle de reconnaître que la personne qui s'apprête à traverser la rue est une personne qui ne voit pas.
D'accord.
Alors, pour faire connaître son idée, elle a contacté les autorités, mais aussi un grand quotidien de l'époque, l'Écho de Paris. Et elle a aussi organisé beaucoup d'événements bénéfices, publié des lettres d'opinion, contacté le préfet de police. Et elle-même va contribuer à financer l'achat de milliers de cannes blanches pour les distribuer.
Oh là là, c'est très généreux. Parce que c'est sûr que, un, il faut que la canne blanche devienne pratique courante. Alors, il faut qu'il y ait beaucoup de cannes blanches en circulation, d'une part, et d'autre part, il faut que les automobilistes soient au fait de la signification de l'objet.
Tout à fait. Et on parle d'une époque là où les moyens de communication sont plus limités. Donc, il y a eu vraiment des remises officielles avec ministres, des choses comme ça, question de faire parler du phénomène. Et donc, elle en a elle-même donné 5 000.
Oh, d'accord.
Et cette campagne-là sera couverte par les journaux britanniques.
Ah, d'accord. C'est comme ça que c'est sorti, c'est hors frontières.
Voilà. Et c'est en Grande-Bretagne, c'est le Rotary Club qui décide de reprendre cette idée et d'en faire la promotion. Et là, c'est la BBC qui va s'en mêler et qui va suggérer sur ses ondes aux personnes aveugles d'utiliser une canne blanche comme manière de s'identifier. Mm-hmm. Et peu après, ben, la nouvelle va aussi se rendre aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'est les Lions Club.
OK, les Lions Club qui ont un long historique d'aide aux personnes vivant avec un handicap visuel.
Tout à fait. On les voit aussi souvent impliqués quand on lit à propos de l'histoire des chiens guides.
Mm-hmm.
Alors, c'est eux qui vont répandre la canne blanche aux États-Unis. Alors, on dit que pendant plusieurs années, les utilisateurs là, se déplaçaient en la tenant en position fixe. Et c'était vraiment la position d'identification qui primait.
D'accord.
Et dans certains pays, même le fait de l'élever signalait qu'on voulait traverser.
Ah oui, d'accord, je comprends. Ouais, comme si on levait le bras pour hailer un taxi, ben là, on lève la canne blanche au carrefour, tout le monde s'arrête, c'est magique. Enfin, on espère.
On l'espère. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a le docteur Richard Hoover qui a développé la canne longue et ce qu'on appelle la méthode de déplacement Hoover.
Mm-hmm.
Et c'est à partir de ce moment-là que tout en gardant son côté symbolique, la canne devient aussi une aide à la mobilité.
D'accord. Parce qu'il fallait aussi que de la part des personnes aveugles qui aient ce désir de s'identifier dans la société.
Oui, c'est sûr que ça a été un enjeu à une époque où il y avait plus de stigmatisation. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression que tranquillement, à la longue, l'enjeu de sécurité a pris le dessus. Et probablement que cette seconde fonction de la canne a aussi contribué à son essor, puisqu'elle devenait un objet pratique pour se déplacer, pour favoriser son autonomie.
Parce que c'est sûr que j'allais faire une mauvaise blague, mais si on lève notre canne blanche pour que la circulation s'arrête, mais qu'on manque la chaîne de trottoir, il y a quelque chose qui cloche.
Voilà. Donc, pour ce qui est de souligner l'histoire de la canne blanche, il y a la Journée internationale.
D'accord.
Qui, elle, est le 15 octobre. Et ça a été décrété en 1970 par l'Union mondiale des aveugles, qui à l'époque s'appelait la Fédération internationale.
Mm-hmm.
Et ça a été finalement adopté dans les journées internationales de l'ONU. Et au Canada, donc, cette semaine de la canne blanche en février, qui aurait été instaurée en 1947.
Ah, et c'est au Canada, c'est encore une fois la première semaine complète de février. Mais alors, Mme Guy d'Herbemont, on l'espère, c'est... Ces bonnes œuvres ont été reconnues parce que c'est quand même, bien que M. Biggs ait eu peut-être lui l'idée en premier, mais s'il était tout seul à Bristol avec sa canne blanche, à moins d'être son voisin, sa vie était peut-être un peu en danger, alors que Mme d'Herbemont a été à la source, finalement, de l'universalisation de l'utilisation de la canne blanche.
Alors, je pense qu'elle avait des connexions que n'avait pas monsieur à Bristol, vu son statut social.
Et ses moyens financiers, tout
ses
ça.
Ses moyens financiers, le fait que, comme beaucoup de femmes de l'époque, souvent étaient déjà impliquées dans des œuvres caritatives, tout ça a créé les circonstances pour que, cette fois-ci, l'idée se répande pour vrai.
Bien, pour terminer sur une note culturelle, Mme Campagna, je me permettrais de souligner que Mme d'Herbemont était aussi poétesse et a remporté des prix de littérature, entre autres pour son poème « Les peupliers ». Donc, je vais vous lire les premiers vers. Alors, ça va nous inspirer et peut-être nous amener de l'autre côté de la pause. « Les hauts peupliers font leur prière debout le long des grands chemins des fleuves et des canaux. » Si droit malgré les vents, si puissant et si beau. Ah, voilà. Merci, Mme Campagna.
Merci.